Mais concrètement, je m'intéresse au-delà de la question purement musicale, à interroger comment nous écoutons, ou à ce que l'écoute signifie et implique, à travers les perspectives culturelles, sociales, politiques, technologiques, historiques et philosophiques de la production et de la perception du son. De manière plus générale, je suis intéressé dans ce cadre, ma foi extrêmement vaste et ouvert des sound studies, à tenter de réaliser, pour reprendre un concept de la chercheuse Juliette Volclair, une critique sociale du son, et donc de participer à une production collective de discours, de concepts et de positions autour de ces questions. Je vais donc essayer d'évoquer certaines problématiques qui découlent de ma pratique sonore, et j'aimerais ajouter que je vais un peu osciller entre deux aspects. D'une part, une position théorique qui prendrait racine dans les terreaux fertiles des sound studies, et d'autre part, une position pratique liée à ma propre expérience d'artiste sonore sur le terrain. Il se peut que ces deux positions se mélangent un peu et deviennent floues au fil de mon intervention. On va voir où ça nous mène. Donc en préparant cette petite intervention ce soir, je suis tombé sur cette phrase qui présentait le workshop de l'école du tiers-lieu, donc qui a eu lieu ici ces derniers jours. Je la cite. Le workshop offrirait autant d'idées qui donnent des outils pour imaginer des actions politiques locales qui tendent à modifier le paysage, laissant des traces pour et par celles et ceux qui ont pu voir les mauvaises herbes comme le résultat d'un espace libéré de toute projection mercantile. Cette jolie phrase me semble un bon point de départ pour développer quelques idées aujourd'hui, en interprétant peut-être du point de vue des pratiques sonores. Et bien que l'on pourrait analyser les nombreuses questions et problématiques autour de ce que l'on appelle le concept de paysage sonore, je vais plutôt essayer de définir des formes de territoire ou d'espace autour des pratiques sonores marginales que l'on trouve en Suisse aujourd'hui. Et donc par là même, pour reprendre la phrase citée plus haut, de considérer les mauvaises herbes des scènes musicales en Suisse comme autant d'actrices et d'acteurs œuvrant à des espaces collectifs sonores et essayant de repenser les rapports de production en son sein. Donc, cette intervention pourrait être intitulée « De la possibilité d'être des mauvaises herbes dans le paysage culturel suisse ». Mais, de fait, un autre titre possible serait « Vers une émancipation de l'écoute ». Alors, un premier point que j'aimerais faire, ce serait de tenter de démontrer que les pratiques sonores expérimentales en Suisse sont caractérisées par une forte hétérogénéité. Ces pratiques englobent autant la musique improvisée, musique écrite, musique acoustique, musique électronique, et j'en passe, et montrent que de les définir à travers des étiquettes ou genres peut être problématique. Il s'agirait alors d'une part de ne plus parler de pratique musicale, mais bien de pratique sonore. Ce serait peut-être un premier point que j'aimerais faire, cette différenciation de... c'est de reconsidérer les pratiques musicales et de parler de pratiques sonores. Le son est un phénomène vibratoire total, et la musique, quant à elle, est une construction sociale, souvent affiliée à des considérations normatives telles que mélodie, rythme régulier, harmonie bien tempérée, etc. Un deuxième aspect qui me semble important est de penser le son au-delà des catégories et des genres musicaux, et par là même de concrétiser une approche transversale et transdisciplinaire du sonore. La séparation des catégories musicales aux genres musicaux semble apparaître à travers l'histoire, autant dans les scènes académiques que dans certaines niches underground spécifiques, appliquées à autodéfinir un terrain délimité et parfois excluant tout ce qui se passe hors de son propre champ d'action esthétique. La séparation stylistique est également concernée par la nécessité de créer des marchés musicaux spécifiques dont le but de cibler les consommatrices et les consommateurs d'une part, et d'autre part, afin de permettre au sujet une identification sociale avec une scène particulière. Par exemple, que ce soit l'opéra, du punk rock dans une cave ou de la musique improvisée expérimentale, le sujet, qu'il soit artiste ou amateur de musique ou de son, s'identifie socialement avec une scène spécifique, avec ses codes et avec ses usages. Alors, bien qu'il y ait une multitude de genres, de sous-genres, de catégories musicales, une grande majorité de structures professionnelles consacrées à la musique en Suisse, ça va des institutions de subventionnement jusqu'aux salles, aux lieux, aux festivals qui présentent ces pratiques, pensent et catégorisent la musique principalement en seulement 6 genres séparés. Ces catégories sont musique classique, musique contemporaine, jazz, pop, rock, et la catégorie joker, hautement problématique des musiques actuelles, qui, à mon avis, ne veut rien dire du tout. En Suisse, on doit presque obligatoirement s'assujettir à l'une de ces catégories ou disciplines dans le monde musical professionnel. Donc il s'agirait, pour ma part, d'essayer en fait de décatégoriser et de déhiérarchiser les pratiques sonores afin de proposer des outils plus à même de répondre aux transformations de ces pratiques aventureuses aujourd'hui. À titre d'exemple, je mentionnerai qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre un quatuor à cordes de Beethoven, les infrabasses d'un volcan en éruption ou le ronflement d'une centrale électrique, mais qu'il s'agit de percevoir ces phénomènes sonores dont leur singularité et leur signification. Alors, un dialogue serait à mon avis bienvenu pour envisager les nombreuses transformations nécessaires au sein des institutions culturelles publiques afin de les mettre en résonance avec une réalité de terrain souvent caractérisée par une transversalité du sonore qui n'est peu ou pas représentée institutionnellement. Petite parenthèse que je fais toujours par rapport aux institutions, il s'agit de la question de l'enseignement de la musique autant à l'école que dans le tertiaire, donc dans les hautes écoles de musique. Ça, c'est un très très gros chapitre que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui en détail, mais j'aimerais rapidement peut-être dire qu'il s'agirait d'analyser comment l'écoute et les problématiques du son sont transmises aux élèves à l'école publique, la plupart du temps presque uniquement à travers une vision normative de la musique. Et moi, je me rappelle personnellement du temps où j'allais à l'école obligatoire, que je me rappelle de mes cours de musique que je devais chanter des chansons de Michel Sardou et jouer au Susanna au xylophone. Donc ça, c'est mes souvenirs personnels des cours de musique à l'école obligatoire. On pourrait espérer une vision un peu plus élargie de l'étude de la vibration de l'air, communément appelée son. Dans le cadre des hautes écoles de musique, il y aurait aussi de nombreuses dimensions problématiques à évoquer, notamment la non-représentation d'outils d'analyse des pratiques et des pensées contemporaines du son, par exemple les arts sonores, les sound studies, la noise et les musiques bruitistes, qui sont tout simplement inexistantes dans la plupart des hautes écoles de musique en Suisse. Il y a évidemment des exceptions, mais je dirais que c'est, de manière générale, ça manque. Donc nous remarquons que nos institutions, pour ce qui est de la musique en Suisse, ont clairement des dimensions problématiques. Il s'agirait de penser, d'analyser et de déconstruire dans le but de dégager d'autres champs de recherche autour de l'écoute et du son. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de faire tabula rasa de toutes les institutions musicales, car il y a bien entendu de nombreux aspects positifs en leur sein, mais il me semble nécessaire d'évoquer une possible direction complémentaire qui serait, à mon avis, plus que bienvenue pour s'adapter aux transformations du présent. Voilà pour une première partie concernant peut-être certaines problématiques liées aux institutions que je tenais à évoquer brièvement ce soir. J'aimerais maintenant retourner sur le terrain, en tout cas essayer de parler donc de certaines réalités des pratiques sonores aventureuses. J'ai évoqué en début d'intervention que ces pratiques aventureuses sonores étaient hétérogènes, donc caractérisées par une grande diversité. En Suisse et à travers le monde, il y a toute une scène parallèle présentant des pratiques sonores autres, je mettrai des guillemets là, qu'on pourrait qualifier d'underground, de non-mainstream ou d'aventureuse. Pratique sonore aventureuse, c'est un terme, personnellement, j'aime assez ce terme-là. Mais là encore, ces catégories sont problématiques et il est difficile de mettre une étiquette sur une variété de niches ou de scènes artistiques marginales et non commerciales. Alors, un des points qu'elles ont en commun, justement, n'est pas forcément esthétique, mais plutôt représenté par le désir de créer des dimensions collectives œuvrant en marge de l'industrie du spectacle et de l'économie créative. Ces pratiques sonores non-mainstream ont donc souvent en commun un désir de ne pas être mues avant tout par le profit, mais de servir de plateforme ou de laboratoire à des expérimentations sociales, tout en définissant des espaces d'échange collectifs en marge, des industries culturelles. Les nombreuses activités que l'on trouve ici à Lausanne, par exemple, hors des scènes traditionnelles, démontre une capacité à l'auto-organisation, c'est-à-dire à agir concrètement, à développer collectivement des autres formes de structures culturelles. Je donne un exemple, une musicienne ou un musicien qui cherche à jouer sa musique qui serait faite de bruit, de dissonance et d'abstraction, mais le club de jazz local n'en veut pas, le festival de musique contemporaine non plus. Bon, problème, que se passe-t-il ? Donc, il ou elle développe soi-même ou avec ses collègues, des lieux où présenter ses pratiques autres. Donc là, il y a un phénomène d'auto-organisation qui me semble absolument central et essentiel. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Ben, les rôles entre curatrice ou curateur et artiste deviennent flous, car souvent les artistes ont une activité d'organisatrice ou d'organisateur en plus de leur pratique artistique. Mise en commun à l'échelle de la Suisse, de l'Europe ou du monde, cela crée des réseaux et des possibilités multiples de pratiques marginales qui s'auto-organisent en évitant les règles commerciales normatives des structures professionnelles et qui permettent aussi le développement d'autres formes de subjectivité. Alors, ces pratiques que j'ai tenté maladroitement de définir pourraient peut-être s'articuler comme autant d'outils pour imaginer et modifier le paysage ou le territoire local, mais aussi national et international. Peut-être là, il y a une résonance avec ce qui a eu lieu ici ces derniers jours dans le quartier du Vallon. Elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes, telles des économies parallèles qui existent dans le cadre des pratiques du son. Bien entendu, il ne s'agit pas de les idéaliser ou de les mettre sur un piédestal. Même dans les pratiques sonores existant plus ou moins hors du mainstream, nous sommes confrontés à des positions ambivalentes et des oscillations entre le pôle commercial ou expérimental et de nombreuses situations hybrides entre les deux. Donc il s'agit d'éviter un positionnement qui serait trop binaire et qui verrait finalement la scène académique d'un côté et les marges aventureuses de l'autre. Je pense que la réalité est beaucoup plus mixte, c'est-à-dire qu'il y a toute une zone un peu grise entre deux, on oscille, donc il y a une oscillation toujours entre ces deux pôles. Mais il s'agirait donc, plutôt que d'essayer de finalement polariser ces deux extrêmes, d'œuvrer pour les interactions et les échanges constructifs entre tous les actrices et acteurs des champs artistiques où elles se positionnent. Cela dit, quand il s'agit de financement, le rôle de l'artiste freelance ou de l'organisatrice, l'organisateur, souvent auto-entrepreneur, est confronté à de nombreux paradoxes quand il s'agit d'articuler une pratique artistique non commerciale et la tentative de vivre de son travail. Auto-entrepreneuriat donc, mais aussi précarité, gouvernement de soi, amélioration permanente à tous les niveaux, compétition, individualisme, sont autant de conséquences des régimes de vérité que l'on retrouve dans le cadre des économies créatives et des modes de gouvernementalité qui régissent notre présent. Il serait donc nécessaire de penser ces ambivalences et d'interroger autant les mécanismes de pouvoir que les rapports de production dans nos pratiques artistiques, et donc d'essayer d'analyser notre actualité dans toutes ces ambivalences. Voilà, alors j'ai essayé d'évoquer de manière certainement boiteuse certains aspects que l'on retrouve sur le terrain dans ces champs, ma foi, très flous des pratiques sonores aventureuses. Et pour terminer mon intervention, j'aimerais peut-être essayer de revenir sur un aspect plus théorique, essayer d'évoquer comment les sound studies pourraient être un champ idéalement complémentaire des pratiques de terrain pour nous aider à comprendre le monde à travers l'écoute, dans une époque qui voit une forte hégémonie du visuel. Alors ces sound studies, qu'est-ce qu'elles essayent de faire ? D'une certaine manière, les sound studies ouvrent des portes vers des imaginations sonores ou des imaginaires sonores qui sont essentiels comme autant de tentatives d'écouter le monde qui nous entoure de manière critique et poétique au-delà des spécialités disciplinaires. Le bourdon des data centers ou les vibrations des signaux électriques et électromagnétiques qui saturent nos environnements urbains, le craquement de la glace arctique qui fond inexorablement, les textures sonores et les voix des nombreuses espèces animales, ainsi que des écosystèmes menacés de disparition par nos activités humaines déraisonnées. Les armes sonores et autres dispositifs répressifs utilisés dans le cadre militaire, mais aussi la musique d'ambiance ou la musac qui vous accompagne si vous consommez chez Manor, à la COP ou chez HM. Tous ces exemples font partie de notre monde sonore et il s'agit donc de les écouter, de les penser et de les analyser. Un peu des exemples, justement, autant la musac que les armes sonores, que les sons qui nous entourent, enfin tout ça peut faire partie de sujets à analyser et c'est un peu ce qu'essaient de faire les sound studies d'une certaine manière. De surcroît, les sound studies proposent des outils importants pour comprendre notre passé et notre présent. Par exemple, en essayant de décoder par l'écoute certains mécanismes des multinationales et leurs techniques disciplinaires d'abrutissement issues de la fusion perverse du management et des technologies digitales à l'ère du divertissement globalisé. En outre, il s'agit aussi de chercher des parallèles grâce aux outils théoriques, philosophiques, sociologiques, historiques et anthropologiques, par exemple autour des questions postcoloniales, queer ou féministes, et qu'on peut aussi utiliser pour analyser les nombreuses perspectives d'une émancipation de l'écoute. Ce serait aussi une chose que les sound studies essaieraient de faire, c'est d'utiliser finalement ces outils théoriques pour penser le monde à travers l'écoute. Ces dimensions que j'ai évoquées ce soir forment des mondes sonores complexes et multiples, et de nombreux enchevêtrements transdisciplinaires qui peuvent prendre forme dans le cadre mouvant des sound studies. Il est donc nécessaire de définir ces espaces, autant au niveau pratique que théorique, et donc d'alimenter des pensées qui entretiennent les multiplicités des imaginations sonores, et des façons diverses de réfléchir notre monde à travers le son et l'écoute. Merci pour votre attention.